Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les étudiants rejoignent le mouvement des blocages ce matin, voté dans plusieurs universités en cette troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La course contre la montre en Turquie, où le bilan des séismes dépasse ce matin les 4800 morts, dernier bilan. 36 pompiers sont partis de Limoges tôt ce matin. Et une première chance de médaille aux mondiaux de ski alpin à Courchevel avec Alexis Pinturo ce matin dans l'épreuve du combiné.
Plusieurs universités se lancent dans le mouvement contre la réforme des retraites.
La réforme est une peine à la perpétuité. Voilà ce que dit ce matin sur RMC le principal syndicat étudiant. La grève est votée à Rennes, de Montpellier, Grenoble, Poitiers, Toulouse, Paris-Tolbiac aussi. C'est là que vous êtes, Nicolas Ropper, en direct ce matin pour RMC. Vous nous dites que le blocus se met en place.
Oui, hein, depuis une petite demi-heure, une vingtaine d'étudiants bloquent la faculté de Tolbiac, qui se trouve dans le sud de Paris. En fait, ils bloquent les ascenseurs, pour être précis, qui permettent de rejoindre les salles de cours. D'autres étudiants sont devant l'entrée et ils vont tracter dans les minutes qui viennent. Ils espèrent rallier le reste des étudiants à cette contestation contre la réforme des retraites. Et je suis avec Linda, étudiante en philosophie et en économie, présidente de l'UNEF ici à Tolbiac. Est-ce que vous espérez que le mouvement prenne dans les universités?
Alors oui, bien sûr, et ça on le voit avec un exemple très concret, les assemblées générales. C'est simple, depuis le début des mobilisations, on organise pour débattre avec les étudiants sur la réforme des retraites et montrer pourquoi est-ce qu'on revendique justement et qu'on est contre cette réforme. Et ça, il y a un mois, il y avait une trentaine maximum d'étudiants qui venaient et c'était des étudiants qui étaient déjà engagés dans des organisations politiques. Tandis qu'hier, dans cette même fac, dans l'amphi N, le plus grand, il y avait 700 étudiants. Et ces 700 étudiants, il y avait peut-être une centaine qui étaient engagés dans des organisations politiques parce qu'il y en a beaucoup ici à Tolbiac. Mais le reste, c'est 600 autres étudiants, eh bien, ne sont pas engagés. Et c'est là où on voit que justement le mouvement prend et les étudiants se sensibilisent à cette réforme que personne n'accepte.
Des organisateurs qui demandent que le blocus se déroule sans débordement, les étudiants mobilisés rejoindront la manif parisienne à 14h.
À 14h entre Bastille et Opéra précisément. 250 cortèges aujourd'hui partout en France, c'était 268 le 31 janvier. Syndicats et autorités s'attendent d'ailleurs à une mobilisation moins massive que les deux dernières fois. Les raffineries Total, tiens, on l'apprend ce matin, sont encore touchées. La CGT a encore procédé cette nuit à des baisses de production d'électricité d'environ 4500 mégawatts dans les centrales, c'est l'équivalent de 4 réacteurs. Et pendant que ça défilera cet après-midi, eh bien les députés continueront l'examen de la réforme qui a commencé dans la cohue hier après-midi. Hélène Terzian du service politique à RMC, aujourd'hui on va entrer dans le vif du sujet avec l'article 1 sur la suppression des régimes spéciaux.
Effectivement, et ils visent les nouveaux embauchés de la RATP, des industries électriques et gazières, EDF, GRDF. Ils seraient donc eux aussi concernés par le décalage de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Alors, est-ce que l'ambiance sera aussi électrique qu'hier, surtout en ce nouveau jour de mobilisation? Hier, c'était la foire d'empoigne entre suspension de séance, des députés qui se sont dit victimes de messages d'intimidation. Ambiance tellement survoltée que l'examen des premiers amendements n'a commencé que vers 23h30. Les débats reprennent aujourd'hui à 17h, après les questions au gouvernement qui seront sans aucun doute très animées. Allez, encore plus de 16 500 amendements à examiner et un gouvernement qui cherche à tout prix une majorité.
Et troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Troisième journée spéciale sur RMC et vos appels toujours au 32-16 pour interpeller le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il est 8h03 sur RMC et c'est la course ce matin qui continue en Turquie pour tenter de retrouver des survivants après les deux puissants séismes qui ont fait au moins 4 800 morts et 30 000 blessés en Turquie et en Syrie. Pour ne rien arranger, la terre a encore tremblé cette nuit avec une réplique de magnitude 5,6 sur l'échelle de Richter dans le centre de la Turquie. La France a déjà envoyé 139 secouristes de la sécurité civile. Ils sont partis hier soir et 36 pompiers sont partis très tôt ce matin de Limoges. Ce sont les pompiers de l'urgence qui interviennent régulièrement en zone de catastrophe. Barbara Mink, écoutez-la, est leur porte-parole.
On parle d'un grand nombre de victimes potentiellement sous les décombres et donc le froid évidemment ne joue pas en notre faveur, c'est une course contre la montre, il va falloir faire preuve de beaucoup de technicité, donc c'est pourquoi nous partons avec énormément d'équipements techniques, des caméras thermiques, des appareils d'écoute, des drones et nous avons aussi 3 chiens de recherche. Les missions d'urgence ne se ressemblent jamais, j'ai échangé avec eux, j'ai pu leur dire simplement d'être très prudent parce que ce n'est pas anodin d'aller intervenir sur une catastrophe, surtout quand on sait qu'il y a encore beaucoup de répliques.
On a ce matin le premier bilan des soldes qui se termine aujourd'hui. Chiffre d'affaires en hausse de 6% sur les 3 premières semaines. C'est évidemment mieux qu'en 2022. Mais l'Alliance du commerce peine à se réjouir dans un contexte de casse sociale pour l'habillement. C'est dans la journée que l'INSEE va revoir certainement à la hausse ses prévisions pour l'inflation qui est terminée l'année dernière à 5,3%. Ce n'est pas rassurant pour 2023. Vincent Chevalier l'a bien compris en se rendant pour RMC dans un supermarché au nord de Lyon, à Trévoux, dans le département de l'Ain.
Sur le parking du supermarché, Bernard pousse un caddie presque vide, mais il n'en revient pas.
J'en ai pour 25 euros.
Il n'y a pas grand-chose.
Non, un peu de beurre, un peu de yaourt, et puis il y a quoi à manger pour un jour, deux jours maximum.
Sa femme aussi a du mal à digérer le ticket de caisse.
On a connu le franc et tout, alors si on met en France, on dit « Hein, une salade 10 francs ?» Mais on faisait le marché avec 10 francs.
Tous les deux gagnent environ 1700 euros de retraite par mois. Avec l'inflation, ils doivent surveiller de près leurs dépenses.
On s'achète moins de vêtements, on s'achète moins. Voilà, on fait attention.
Mais on fait des trucs tout à fait naturels, c'est de la marche, des trucs qui coûtent rien du tout, quoi.
Des concessions, malgré les efforts.
Des trucs qu'on prenait mais qu'on prend plus. Parce qu'on dit, on peut s'en passer.
Pour Marc et sa famille, c'est le budget loisirs qui est sacrifié.
Moi, les vacances, on partira pas cette année.
De quoi générer de la frustration, un peu de colère aussi, selon Yannick, artisan.
On se prive, on travaille pour, et on récolte pas, entre guillemets, ce qu'on sème, quoi.
Selon les économistes, l'inflation devrait encore accélérer en ce début 2023, avant un ralentissement plus tard dans l'année.
Et puis une première chance de médaille ce matin au Mondiaux de ski alpin à Méribel et Courchevel. C'est le premier grand événement sportif de l'année en France. Arnaud Souk, c'est vous qui le couvrez pour RMC. Et vous nous dites qu'on attend beaucoup de la star des Bleus, Alexis Pinturo, ce matin dans le combiné chez lui à Courchevel.
Oui, et pour Alexis Pinturo, l'expression « courir à la maison » prendra tout son sens pendant ces mondiaux. L'enfant de Courchevel apercevra même son propre hôtel depuis les derniers hectomètres de la piste de compétition.
C'est sûr que c'est particulier, c'est déjà bizarre, sympa. On est en France, on est devant un public qui forcément va nous amener beaucoup d'engouement, beaucoup d'émotions.
Un supplément d'âme dont Alexis Pinturo aura bien besoin dans un hiver délicat. Un seul podium en Coupe du Monde, bien loin de son statut de meilleur skieur de la planète qu'il était il y a encore 2 ans.
Je pense que je suis pas très gourmand pour ces championnats du monde. Je dirais que je serais heureux si déjà j'arrive va aller chercher une médaille.
Ouais. Et cette médaille pourrait bien venir du combiné. Aujourd'hui, il y a déjà gagné leur mondial en 2019. Sébastien Amier, le vice-champion olympique de slalom à Salt Lake City en 2002, croit même que cela puisse être libérateur pour la suite.
Si le super combiné se déroule bien pour lui, on peut découvrir un autre personnage qui veut aller glaner d'autres médailles. Il est dans cette position d'outsider sur des championnats du monde, alors que habituellement sur de grands événements, il était arrivé comme favori. Peut-être que ça va le libérer.
Alexis Pinturo, qui en plus du combiné, aujourd'hui disputera le super G jeudi, ainsi que le slalom géant et le slalom spécial la semaine prochaine.
Et on écoutera Arnaud Souk au commentaire sur RMC ce matin à 11h puis à 14h30.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h07 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le ministre en charge de la réforme des retraites, Olivier Dussopt, est dans ce studio. Il vous répond dans un instant. Il y a déjà Florence et Rémi qui nous attendent au standard pour l'interroger très directement, notamment sur les carrières longues. Vous êtes senior, vous avez des questions pour vous-même. Vous venez témoigner, interpeller directement le ministre en charge des réformes. Ça se passe sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et on surveille aussi vos réactions sur notre appli RMC avec Direct Studio. Vous le savez, on reçoit directement vos messages dans cette 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. José nous écrit, moi j'ai pas vraiment d'avis sur la réforme, même si je suis généralement pas très favorable aux grèves. Mais j'aimerais surtout dire que le comportement des députés est scandaleux, surtout la NUPES. J'ai honte quand j'entends et je vois ce matin le niveau du débat parlementaire. Si ce sont ces gens qui doivent décider de notre avenir, on n'est pas rendu. Voilà ce qu'écrit José. Marc, lui, nous écrit, je n'irai pas à la manif aujourd'hui parce que je bosse l'après-midi. Mais j'ai déjà prévu d'y aller samedi avec ma famille et des collègues. Pas question de céder alors que le gouvernement, lui, ne lâche rien. Autour de moi, tous les plus de 50 ans sont déjà épuisés par le boulot. La plupart ne tiendront pas jusqu'à 62 ans et encore moins 64. Et puis j'ai le message de Thierry, tiens, qui nous écrit, le gouvernement n'arrête pas de dire que cette réforme est juste. Mais si j'ai bien compris, il ne touche pas aux retraites des sénateurs qui ont des retraites très généreuses. Pourquoi ne pas s'attaquer à ces retraites-là si on parle de justice autour de cette réforme? Voilà ce que dit Thierry. Vous aussi, vous venez réagir et interpeller directement Olivier Dussopt au 32-16 sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
8h11 sur RMC, Olivier Dussopt peut-être avec nous.
RMC, journée spéciale.
Mobilisation contre la réforme des retraites.
Le ministre en charge du dossier des retraites est donc dans ce studio pour vous répondre très directement. Il y a Rémi qui est avec nous, qui a composé le 32-16. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous habitez à Grenoble, vous êtes agent d'entretien. Votre question au ministre?
Oui, bonjour. Alors bonjour. Ma question, c'est alors que les mobilisations sont massives et que 2/3 de la population, dont 9 actifs sur 10, sont contre l'idée principale de la réforme, à savoir les 64 ans, j'aimerais bien savoir qui vous pensez représenter en poussant la réforme jusqu'au bout comme ça.
Olivier Dussopt.
Le président de la République, quand il a fait campagne, a dit que sa volonté était de réformer les retraites, et il avait même avancé l'idée d'augmenter l'âge jusqu'à 65 ans. Depuis, nous avons retravaillé, et nous savons qu'avec 64 ans et une accélération de la réforme de Marisol Touraine, les choses sont possibles pour équilibrer le système.
Mais Rémi, il fait référence à l'opinion aujourd'hui.
Et par ailleurs, je sais pertinemment, nous savons tous, que tous les électeurs qui ont voté pour le président de la République n'ont pas voté pour lui d'abord pour cette réforme. Certains ont voté pour cette réforme, d'autres ont voté pour lui malgré cette réforme, et certains ont voté contre lui à cause de cette réforme. Nous, nous considérons, et je le dis à ce monsieur de Grenoble, le système est déficitaire et nous voulons le sauver. C'est pour ça que nous faisons cette réforme. Nous savons que c'est difficile. Toutes les réformes des retraites ont été difficiles. Et ce que nous essayons de faire, c'est que cet effort, parce que c'est un effort que nous demandons aux Français, il ne faut pas se voiler la face. On y va progressivement, mais 2 ans de plus, c'est un effort. Nous essayons de le répartir le plus justement possible, grâce aux carrières longues, grâce à la pénibilité, et avec des retraites meilleures pour les petits retraités.
Olivier Dussopt, il y a aussi Gérald qui est avec nous. Bonjour Gérald.
Oui, bonjour Apolline, bonjour Monsieur le Ministre.
Vous nous appelez de l'Hérault, je crois que vous êtes chauffeur-livreur et vous avez 51 ans, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors le ministre vous écoute.
Oui, Monsieur le Ministre, bonjour. Voilà, je vais finir à 43 annuités à 60 ans, donc c'est parfait, sauf que j'ai une carrière militaire. Donc j'ai gagné 3 annuités en plus, donc j'aurais dû partir à 57 ans. Donc je vais partir à 46 annuités. En plus de ça, je suis pompier volontaire, donc en ce moment on est en train de parler de nous filer des trios supplémentaires. J'aimerais savoir à quoi ça sert tout ça, puisque de toute façon, ça ne changera rien. Au final, je partirai à 60 ans et voire 46, 47 annuités.
Qu'est-ce que vous répondez à Gérald?
Il y a deux choses. D'abord, il a raison. Nous allons faire en sorte que les sapeurs-pompiers volontaires, c'est une demande des députés de la majorité, soient reconnus dans leur engagement avec l'octroi de trimestre. Et puis, il y a une question, mais
ce sera fait. Vous vous y engagez ce matin.
J'ai déjà...
On a reçu le tout nouveau patron des pompiers de France qui posait cette question, qui se demandait si vous le feriez. Vous le faites.
Il y a un amendement qui a été déposé par les députés du groupe Renaissance, la majorité présidentielle, et j'ai dit que je donnerais un avis favorable. Et donc, si l'Assemblée le vote, il sera adopté avec le soutien du gouvernement.
Donc ça, c'est la première réponse à Gérald. Ensuite,
la deuxième réponse, c'est que monsieur nous a dit qu'il était... Alors, quand on est militaire et pensionné militaire, on a cette caractéristique, normalement, d'être pensionné relativement jeune, et ensuite de cumuler avec un emploi et des règles très spécifiques. Et par ailleurs, je me suis dit être chauffeur routier. Il y a dans la branche du transport routier, mais je ne sais pas s'il est couvert au titre de sa convention collective, des dispositifs de congés de fin d'activité qui ne sont pas un régime spécial, mais qui sont un régime conventionnel qu'il faut renouveler, dont le gouvernement a déjà dit qu'il soutiendrait le renouvellement.
Ça veut dire quoi? C'est une forme de reconnaissance de la pénibilité a posteriori?
C'est un dispositif très spécifique au transport routier qui concerne plutôt les chauffeurs de poids lourds. Je ne sais pas si monsieur est directement concerné. Et quand il dit à quoi...
Vous êtes là, Gérald, vous pouvez répondre à cette question? Oui, allez-y.
Est-ce que vous bénéficiez du CFA, monsieur?
Oui, je suis un chauffeur poids lourd, plus la difficulté, puisque port de charge de lourd et tout. Mais j'aurais voulu savoir, surtout, c'est partir à 46, 47 annuités à 60 ans, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi sur ma retraite? Alors, ou à d'autres, hein, je ne suis pas le seul. Hein.
Je sais, monsieur, et vous êtes un des exemples qui montre qu'en matière de cotisation, de durée de cotisation, quand on en débat, on a l'impression que c'est un plafond au maximum, alors qu'en réalité... Ça a toujours été un plancher, un minimum pour avoir une retraite à taux plein. Et quand on regarde les chiffres, il y a 800 000 départs à la retraite par an. 180 000 personnes, comme vous, partent avec plus de trimestres qu'il n'en faut. C'est une des données de notre système. Cela a toujours existé. Nous essayons de réduire l'écart. Mais je le répète, si vous êtes dans le secteur du transport routier, si votre entreprise est couverte par la convention qui prévoit le congé de fin d'activité, c'est un dispositif que nous allons reconduire et qui devrait pouvoir vous accompagner.
Florence est également là, qui nous appelle de la Drôme. Vous êtes à Mours sur ESEP. Bonjour Florence. Florence,
oui,
59
bonjour,
ans.
Oui.
Vous y étiez presque.
Alors j'y étais presque pour l'année prochaine au mois de janvier. Donc j'avais tout prévu, j'ai tous mes trimestres. Je suis carrière longue puisque j'ai travaillé entre 5 trimestres avant l'âge de mes 20 ans. Et donc je vais devoir travailler 2 ans de plus. Donc, je me demande pour quelle raison vous n'essayez pas de faire quelque chose pour cette tranche d'âge, puisque vous venez d'étendre la carrière longue à l'âge de 21 ans. Sauf que nous, ben, entre 18 et 20 ans, on est nombreux dans ce cas-là, et j'aimerais savoir si vous comptez faire quelque chose pour nous et ne pas nous infliger d'autant de plus alors qu'on est à 9 mois ou 10 mois de la retraite. Voilà.
Pardon, madame, parce que ça n'est pas poli de demander cela, mais est-ce que je peux vous demander votre année de naissance ?
Voilà, mon année de naissance, 1963.
1963, vous ne travaillerez pas 2 ans de plus. Je ne vais pas vous dire que vous ne travaillerez pas plus longtemps, ça serait vous mentir, mais 1963, ce n'est pas 2 ans de plus, c'est 2 trimestres. C'est 3 trimestres de plus, donc 9 mois et pas 2 ans. Je suis convaincu, madame, que ça ne va pas vous satisfaire et que vous auriez préféré partir à l'âge que vous avez prévu, mais ça n'est pas 2 ans de plus puisque vous êtes dans les années de naissance pour lesquelles la retraite se met en œuvre de manière progressive, l'augmentation de l'âge se met en œuvre de manière progressive. Mais en tout cas, ça n'est pas 2 ans de plus si vous êtes née cette année-là.
Vous l'aviez en tête, ça,
oui.
Florence?
Non, parce qu'en fait, si vous voulez, moi, si j'ai bien compris, puisque la réforme n'était quand même pas très audible pour la majorité des gens qui sont dans mon cas.
C'est précisément pour ça qu'on veut que vous puissiez dialoguer directement avec le ministre France.
Voilà. Moi, j'ai compris, si vous voulez, qu'il y avait 2 conditions. C'est-à-dire, effectivement, le nombre de trimestres et l'âge. Donc, en fait, si vous voulez, c'est vrai que si je fais 9 mois de plus, j'aurai mes trimestres. J'aurai 171 au lieu de 168 qui étaient requis jusqu'à présent. Sauf que, si vous voulez, je n'aurai pas 62 ans. Et c'est là où je ne comprends pas.
Mais rassurez-vous, madame, le dispositif carrière longue pour les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, il va permettre de partir 2 ans plus tôt, c'est-à-dire quand nous serons à 64 ans, à 62 ans. Mais dans un premier temps, tout ça va être progressif comme la montée de l'âge. Et donc, je vous le répète, dans la situation qui est la vôtre, alors je suis toujours prudent parce que vous imaginez que je n'ai pas votre dossier sous les yeux, je ne vous connais pas, même si vous êtes une voisine de ma commune en Ardèche à Annonay. Mais si vous avez vos trimestres, si vous avez la carrière longue et si vous êtes né en 1963, c'est... Et j'entends bien que c'est un effort. 3 trimestres de plus, mais pas 2 ans de plus.
3 trimestres et non 2 ans. Florence reste avec nous, mais il y a aussi Blandine qui est là et qui a une question notamment sur la question de l'emploi des seniors qui a été beaucoup soulevée et qui est en toile de fond de cette réforme. Bonjour Blandine, vous nous appelez du Vaucluse et si je comprends bien, depuis l'âge de 54 ans, vous êtes au chômage, vous êtes en recherche d'emploi.
Alors oui, donc j'étais aide-soignante, j'ai eu un problème de santé, on m'a mis une prothèse, donc du coup on n'a pas pu me reclasser, j'ai été licenciée. Je me suis retrouvée à Pôle emploi, donc je me suis battue pour avoir une formation, j'ai fait une formation de CIP, conseiller en insertion professionnelle. J'ai eu mon diplôme en 2019, là, voilà. Et là j'ai commencé à postuler, même à Pôle emploi, et je me suis aperçue que mon âge, ça n'allait pas. Et ça fait 3 ans.
Vous avez quel âge? Vous avez quel âge aujourd'hui, Blandine?
J'ai 60 ans. Ça fait 3 ans que je galère. Et j'en suis arrivée, parce que on dit toujours, ouais, les seniors, ils coûtent trop cher. Moi, j'en suis arrivée à postuler dans des magasins, au SMIG, hein. Et on me dit, mais vous êtes bien mignonne, madame, mais nous, on prend des jeunes de 20 ans. Et donc, je vois pas le bout. D'autant que je me suis arrêtée pour élever mes enfants pendant 10 ans. Donc je n'aurai jamais de retraite, il faut au moins que j'aille jusque 67 ans, mais je ne trouve pas de boulot. Donc une petite précision, j'ai écrit à monsieur Emmanuel Macron début janvier un courrier de 3 pages lui expliquant mon cas et je lui ai dit trouvez-moi du boulot. Moi je veux bien bosser mais trouvez-moi du boulot, je cherche un temps partiel. Et là, on vient de me répondre qu'on avait transmis mon dossier à monsieur le ministre de l'Emploi.
Le ministre de l'Emploi, il est devant vous, Olivier Dussopt. Est-ce que vous répondez à Blandine?
Pardon madame, mais comme je reçois entre 400 et 500 courriers par jour, je n'ai pas vu le vôtre encore, mais je vais faire attention à cela. Est-ce que je peux vous poser vous aussi une question? Je suis désolé de faire ça, mais derrière chaque cas, il y a des éléments toujours très particuliers. Vous nous avez dit avoir été aide-soignante, avoir été malade ou blessée, pardon si je me trompe. Est-ce que vous avez une reconnaissance d'incapacité ou d'inaptitude de 10% ou de 20%?
Alors non, j'ai la médecin du travail, Madame Bernstein, à l'époque, on a fait un dossier. On a demandé, alors elle m'a fait faire, on a demandé à la Sécu ce que vous dites là. Et ce que je vais vous dire, c'est vrai. Je suis tombée sur un médecin du travail qui m'a dit que si on devait indemniser toutes les aides-soignantes qui se foutent le dos en l'air, la Sécu serait ruinée.
Voilà la réalité quand même, Olivier Dussopt.
Je connais bien cette réalité et souvent on parle de chiffres. On parle d'alinéa, on parle de droit, et en réalité, on parle de la vie des gens.
Exactement. Et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas coché à un moment la bonne case.
Et madame l'a dit, une maladie professionnel ou pas, ce n'est pas à moi d'en juger, c'est le rôle des médecins. Des périodes d'interruption pour élever ses enfants, c'est parfois un choix, parfois une conséquence et quelque chose de subi. Et derrière chaque parcours, derrière chaque dossier, il y a une particularité, il y a une vie. Je dis souvent que au moment de la retraite, on doit à la fois se projeter dans un avenir parfois un peu inquiétant parce que peuvent rôder l'ombre de la maladie ou de la dépendance, on ne le souhaite à personne. Puis ça oblige aussi à se retourner sur son passé, voir toute une carrière, des éléments.
Oui, mais là vous êtes dans le constat, pas dans la réponse.
Non, mais ça compte aussi beaucoup parce que ça explique pourquoi cette question est aussi intime et fondamentale. Je posais cette question à madame parce que si madame avait été reconnue avec un taux d'incapacité supérieur à 10 ou à 20%, le maintien, et c'est une décision que nous avons mise dans la loi, de la possibilité de partir à taux plein à 62 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, est assuré. Après, il y a un deuxième point, parce que je ne connais pas suffisamment le dossier de madame. C'est que ce qu'elle dit est juste. Et c'est juste dans la mesure où les entreprises, et ça n'est pas de la loi, les entreprises doivent changer de regard sur les seniors. D'abord, parce que dans notre pays...
Mais allez-vous les y forcer ?
Dans notre pays, on est
seniors. Allez-vous les y forcer ?
Dans notre pays, on est seniors à 50 ans, ça concerne beaucoup de monde. Comment est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire plusieurs choses. La première, c'est que pour les salariés qui sont en activité, on va favoriser la retraite progressive pour pouvoir lever le pied à la fin de la carrière. Nous allons pousser les questions de formation des seniors et puis nous créons quelque chose.
Mais elle est formée, Blandine.
Oui, j'ai entendu.
C'est pas une question de formation.
Non, mais j'ai entendu cela et c'est très respectable de faire un effort de formation quand on a passé 50 ans, parce que c'est souvent un investissement personnel de temps, d'énergie sur la famille qui est important. Mais on va créer ce qu'on appelle un index senior. Cet index, il va permettre de mesurer l'implication des entreprises. Les entreprises qui
mais
ne jouent pas le jeu.
Un index sans contrainte.
Justement, j'y arrive. Un index sans contrainte, ça ne marche pas forcément. Donc, les entreprises qui ne jouent pas le jeu de la transparence seront sanctionnées. Il y aura une obligation de négocier sur l'emploi des seniors. Et nous avons dit
elles
avec.
Elles seront sanctionnées de ne pas donner les chiffres, mais elles ne seront pas sanctionnées des chiffres même.
C'est bien parce que vous m'amenez à apporter un troisième point.
Allez-y.
Mais je sais que vous êtes super forte pour pousser les gens dans le retranchement.
Non, mais allez-y.
Mais ce que nous avons dit avec la Première ministre, je l'ai dit hier à l'Assemblée. C'est que nous avons dit qu'une entreprise qui a rempli l'index, qui a fait son obligation de négociation et qui ne joue pas le jeu, nous allons accepter des amendements pour que ces entreprises qui ne jouent pas le jeu soient obligées de changer la donne et de faire de vrais efforts pour les seniors.
C'est un avec amendement. Avec des sanctions, il y aura des pénalités.
D'abord action obligatoire et en cas de refus d'action obligatoire, sanctions.
Il y a quand même beaucoup de cases à cocher.
Mettons-nous aussi à la place de tout le monde. On se met à la place.
Je me mets à la place de Blandine là.
Je me mets à la place de madame et je me mets aussi à la place du chef d'entreprise qui a 100 ou 150 salariés, qui a 4, 5, 6% de plus de 50 ans et à qui on demande de changer fondamentalement les choses. Ça se fait pas en 6 mois.
Olivier Dussopt, le ministre du Travail en charge de la réforme des retraites, vous a donc répondu ce matin sur RMC. Merci à vous. Il est 8h23. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche, Arnaud de Manche qui nous rejoint. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien Apolline, félicitations. Hein. Grand écart ce matin, vous êtes souple. On vient d'écouter Olivier Dussopt qui nous expliquait qu'on devrait bosser jusqu'à 64 ans. Sinon tout le système s'effondre. Et dans 5 minutes, vous recevez Sandrine Rousseau qui nous expliquera qu'il faut la retraite à 60 ans, le droit à la paresse, sinon la planète va mourir et le système s'effondre. Donc, quoi qu'il arrive, le système s'effondre. Je propose de ne plus bouger. Dès comme quand on est devant une machine qui fait... On reste immobile, on ne touche à rien. On se demande ce qu'on doit faire avec la retraite des actifs. Je deviens passif.
C'est d'autant plus très bien aussi. Non. Laissez faire les choses, laissez agir les autres.
Alors Sandrine Rousseau propose une phrase de...
Michel Serrault. C'est Michel Serrault, évidemment, oui.
Sandrine
Rousseau
propose le droit à la paresse, la droite est contre, ce qui est bizarre. Enfin, je veux dire, François Fillon, Éric Ciotti, François Bayrou, Patrick Balkany, tous sont mouillés dans des affaires d'emploi fictif. On sent que travailler, ils n'aiment pas vraiment ça. C'est l'argent qui est intéressant, ça c'est bien.
Alors aujourd'hui, grande journée d'action contre la réforme.
Oui, y compris ici, Charles Magnin rejoindra cet après-midi ses amis Black Bloc. Oui. Et Manu rejoindra tout à l'heure les Salmon Bloc, les Blocs Saumon, ainsi nommés à cause des pages Saumon du Figaro, des amoureux de l'économie qui protègent les vitrines de banques ou d'assurances des dégâts des voyous. Manu est le chef des Salmon Bloc. Avant chaque manif, il revêt sa cagoule rose. Vous savez, Peter Parker est devenu Spider-Man après avoir été mordu par une araignée. Eh bien, Manu a été mordu par Angela Merkel.
C'était une soirée ?
Après une nuit torride en 89 à la Bourse de Francfort. Et depuis, c'est un héros, le protecteur des petits porteurs. Il a avec lui tous les économistes de France, comme les Avengers. Alors, ils n'ont pas Iron Man ou Superman, mais ils ont Kupferman.
Pierre Kupferman, l'économiste de BFM. Une manif, vite, à la Kupfer mobile. Bref, le Salmon Block se réunit dans un local secret où Manu a mis au point des techniques de combat inspirées du Krav Maga, comme le Cravate Maga. C'est l'étranglement avec une cravate inventée par des comptables du Mossad. Et bien sûr, Manu est champion de MMA, un art martial zéro tracas, zéro blabla. Bref, ça va bastonner dans les rues aujourd'hui.
Et au sujet de cette réforme, on vient d'entendre Olivier Dussopt, qui était sur notre plateau pour faire, nous a-t-il dit, un peu de pédagogie.
Oui, le gouvernement dit souvent qu'il a manqué de pédagogie avec cette réforme, que les opposants n'ont pas compris, que c'était mal expliqué. Non, la pédagogie a été excellente. Hein. Deux ans de taf de plus, c'est très clair. C'est juste que ça fait plaisir à personne. Même Olivier Dussopt, tu sens qu'il voudrait pas faire ça, deux ans de plus. Nous vendre une retraite à 64 ans, c'est un peu comme vendre des revêtements en amiante à un centre de cancérologie. Il y a une réticence générale.
Olivier Dussopt qui est par ailleurs fragilisé, le parquet national financier a retenu contre lui une infraction de favoritisme. Il avait reçu oui, deux lithographies du peintre Gérard Garouste en 2017, un cadeau d'entreprise qui passait un marché avec sa ville.
Oui, alors au début, je me disais, allez, je vais me le faire. Non à la corruption, Mediapart a encore sorti un truc hier, on va lui rentrer dans l'art. Et puis, j'ai tapé Gérard Garouste, le nom du peintre, dans Google Images. Alors, j'ai affiché un tableau là, sur les écrans autour de nous. C'est un clown triste qui tient des feuillets avec des équations vectorielles. Alors, Garouste, je dis pas, hein, c'est un peintre coté, je ne juge pas les goûts et les couleurs. Enfin, on peut au moins s'accorder sur le fait que c'est un peu triste. Ça fait penser aux tableaux qu'il y a dans les maisons de vieilles, qui ont des chatons empaillés et des chaînes de chasse brodées sur des murs en lambris. Il y a 45 poupées sur une étagère qui vous regardent fixement. Ah bah, il est difficile, celui-là. On dirait François Hollande avec un âne et il est aveugle.
Pour ceux qui regardent sur RMC Story, c'est le moment.
C'est des habitations où il y a 45 poupées sur une étagère qui te regardent fixement et un papier tu mouches dans une cuisine en crépit. Franchement, t'es pas favorisé quand tu reçois ça. C'est même une faveur que tu fais au gars qui te les offre, hein, ça débarrasse. Non, et moi, me retrouver devant le juge pour un clown triste, ça me ferait un peu mal. Il y en a un autre, alors on dirait Marc-Olivier Fogiel et Manuel Bompard qui regardent un furet violet se battre avec un écureuil.
C'est pas faux, je voudrais qu'on regarde quand même cette image. Voilà. Je recommande aux gens d'allumer la télé.
Donc,
c'est pas faux.
Critiquons Olivier Dussopt pour sa réforme, mais enfin pour ça, je trouve qu'il a déjà été assez puni comme ça en les ayant dans son bureau et en les regardant toute la journée. Bon courage à tous pour aujourd'hui et à demain.
Arnaud, demain, il est 8h28. Dans un instant, mon invité, c'est Sandrine Rousseau et ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.